ce dimanche 7 janvier 2018. CUTFM commémore le 8e anniversaire du tremblement de terre qui a dévasté Haïti un 12 janvier 2010. Près de 220 000 personnes ont perdu la vie dans cette catastrophe. 300 000 autres ont été blessées. 1,5 million d'Haïtiens se sont donc retrouvés dans les rues. 8 ans plus tard, la situation est toujours critique malgré l'afflux de l'aide internationale. Mais qu'en est-il en 2018? Quels sont les progrès réalisés? Qu'en pensent les Haïtiens, surtout ceux et celles engagés dans la justice sociale en Haïti? Soyez des nôtres dès 11h30. Popourri Show s'en souvient. Haïti, 8 ans après. Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins, des bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez tous les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo. Toute l'équipe vous souhaite une excellente année 2018.
J'ai des amis hollandais. J'ai des amis javanais.
J'avoue, j'en ai bavé pas fou.
J'ai des amis au Portugal.
Hola,
j'ai des amis au Sénégal.
Du côté de l'Oumoué.
J'ai des amis dans les villes.
Allez les gars, à votre.
J'ai des amis dans les îles.
Anti-goût de miel, anti-goût de fiel.
J'ai des amis proches ou lointains. J'ai des amis dans tous les coins.
Hello.
Bonjour.
Tant que la terre sera ronde,
ici,
tour du monde,
là-bas,
voir d'autres êtres humains,
ailleurs,
ni plus ni moins.
RFI,
RFI,
on en fait tout un monde.
Vous écoutez Popourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourrichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM. Et oui, le feu et la fureur fait sans sas. Je suis un génie très stable. Et oui, Mesdames, Messieurs, bienvenue et bonjour, bonne année en ce dimanche 7 janvier 2018, une édition un peu spéciale aujourd'hui sur CUT 89,5 FM en direct. www.ciut.fm, www.ciut.fm si vous désirez. L'ingénieur du son DJ devra aujourd'hui assister de Monsieur Sloan Ballant. Bonjour et bonne année à vous. Aujourd'hui, une émission produite et animée par votre serviteur Eric Adair. Avec vous jusqu'à 13h. Et vous pouvez aussi réentendre nos émissions, télécharger nos émissions sur www.popourishow.com ou encore téléphonez-nous si vous avez des réactions. 416-946-7000. Et oui, bienvenue mon cher Sloan Ballant, vous êtes tout en tout soleillé aujourd'hui. Je vois que vous avez un peu changé depuis l'année dernière. Alors, 2018, vous avez des résolutions sur mur et vous voulez aller aujourd'hui en Haïti, mesdames, messieurs. On a reçu beaucoup de réactions parce que nous faisons cette émission en direct de Cocoa Beach depuis la semaine dernière avec Serge Beyer. Beaucoup de réactions, il fait 40 degrés à l'ombre, s'il vous plaît. Oh, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Eh oui, bienvenue à la première émission de 2018, en ce 7 janvier. Haïti, 8 ans après, le 12 janvier 2010, vous vous souvenez, Haïti était secoué par le plus violent séisme que le pays ait connu en 2 siècles. On en parle aujourd'hui avec un invité très spécial, Lionel Trouillot, professeur de littérature, journaliste, cofondateur de plusieurs revues. Il sera très intéressant d'avoir ses réactions parce qu'il est très engagé dans le domaine du justice sociale en Haïti. Très connu dans son pays, mais aussi dans le monde de la francophonie pour ses œuvres, ses poèmes. Ne ratez pas cette émission, Madame, Monsieur, dès midi avec Lionel Trouillot en direct de Port-au-Prince. Billet retour à Port-au-Prince, Haïti pourrait être la petite sœur francophone de la paradisiaque République dominicaine. Mais le sort, ces dernières années, en a décidé bien autrement. Nos reporters Eve Irvine et Alexandra Renard de France 24 nous dressent le portrait de Port-au-Prince d'aujourd'hui. Vous allez voir, du soleil, tourisme, cocotier et à l'ombre des centaines de milliers de réfugiés malheureusement. Collaboration spéciale aujourd'hui et nous remercions infiniment Initiative Développement, qui est un acteur disposant de nombreuses expertises dans le domaine du développement en Haïti et dans les pays du Sud. Maison d'Haïti de Toronto vous invite, vous convie à son assemblée générale prévue le samedi 13 janvier à North York Civic Center dans la région de Toronto, 14h. Vous pouvez aussi suivre les activités de la Maison d'Haïti du Grand Toronto sur Twitter ou encore facebook.com. Et allez, nous allons recevoir aujourd'hui le président de la Maison d'Haïti du Grand Toronto, Monsieur Fougère Adolphe, qui en est le président. Lancement d'album, la jeune chanteuse caribéenne Lissy Naïs Jean présente son premier album. Très, 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 très belle voix, mais aussi elle est élégante. On pourrait dire elle est une carte modèle. Connaissez-vous la chanson de l'année, mon cher ami Sloan Ballant? Eh bien, la chanson de l'année, ce n'est pas la chanson française. Non, 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 non. C'est Despacito. En exclusivité aujourd'hui, avant la fin de l'émission, Despacito, qui est une chanson qui a été faite pour relever, si vous voulez, le moral des sinistrés, des victimes de l'ouragan qui a frappé un peu les Caraïbes, mais surtout, comment s'appelle cette colonie des États-Unis, Puerto Rico, voilà. Donc, Luis Fonsi, madame, monsieur, sera des nôtres avant la fin de l'émission. Aussi, parmi les manchettes de nos médias partenaires, quels sont les dossiers à surveiller en 2018 pour les langues officielles? Hashtag ONFR nous dresse 5 dossiers chauds. Après plus de 2 ans au pouvoir et malgré quelques mesures, le gouvernement libéral de Justin Trudeau sera très attendu en 2018, tant au niveau du dévoilement du nouveau plan d'action pour les langues officielles qu'au niveau du leadership du Premier ministre Trudeau. Êtes-vous, madame, monsieur, toujours satisfait des services en français de votre gouvernement de l'Ontario ou encore du Canada? Écrivez-nous, cela nous intéresse. popourri@cut.fm. L'Ontario devient la première province à prendre en charge. Écoutez ça, monsieur Ballon, ça c'est pour vous, hein. L'Ontario devient la première province à prendre en charge les médicaments d'ordonnance pour les enfants et les jeunes. Vous êtes âgé moins de 25 ans? Alors, les médicaments d'ordonnance sont désormais gratuits pour vous, mon cher Sloan Ballon. Quel cadeau! En ce 1er janvier 2018, la province de l'Ontario a procédé à la plus importante expansion de l'assurance santé en une génération avec la couverture des médicaments d'ordonnance pour plus de 4 millions d'enfants et de jeunes. Vous êtes âgé de moins de 25 ans, monsieur Sloan Ballon? Oui? Ah? Ne riez pas, c'est sérieux le lancement de l'assurance santé pour plus. Donc pour les enfants, les jeunes, moins de 25 ans. Et sur la scène internationale, vous allez aimer. J'ai promis qu'en 2018, je ne vais pas parler de Monsieur Trump et de la Maison Blanche. Or, je suis obligé par la sortie de ce livre Fire and Fury, le livre Le Feu et la Fureur, qui fait trembler Donald Trump ce vent. Tenez-vous bien, mon cher Sloan, comme des petits pains chauds au chocolat à travers le monde. Incroyable. Et en France, le président Emmanuel Macron a annoncé mercredi 3 janvier un projet de loi contre les fake news, les fausses nouvelles sur Internet. Est-ce possible à régler, réglementer? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ces fake news, les fausses nouvelles, elles ne viennent pas que de la presse. Il ne faut pas se précipiter, car il faut une liberté de la presse d'opinion. L'enjeu, c'est de permettre à la presse d'exprimer son opinion sans être perturbée par les autres. L'idéal, ce serait de construire au niveau européen, rappelle le secrétaire d'État chargé du numérique en France. Après des démissions en série, un nouveau conseil sera nommé d'ici 4 à 5 semaines et plusieurs pays suivent de près ce dossier pilote par le gouvernement français, car la tâche ne sera pas facile, surtout quand on connaît comment les Américains se sont fait avoir avec les élections présidentielles de 2016. Fake news. La République démocratique du Congo, RDC, s'enfonce dans une profonde crise politique marquée par la répression sanglante de manifestations contre le président en place, Joseph Kabila. De nombreux Congolais qui ont immigré en Ontario à la recherche d'une vie meilleure sont choqués par la tournure des événements et appellent le Canada à l'action. Lisez l'excellent article de notre confrère Étienne Fortier-Gauthier de hashtag ONFR. Quelle est la position du gouvernement du Canada, selon vous? Haïti, question du journal Le Nouvelliste ce matin. Que doit faire Haïti afin que ses citoyens puissent voyager sans visa dans la CARICOM? Voilà une belle question. Cameroun 2017, l'enfer des personnes LGBTI, la prison centrale de Yaoundé, bondée, nous dit-on. Le gouvernement du Cameroun est compté parmi les États du monde entier qui, de nos jours, condamne encore les relations sexuelles entre personnes adultes consentantes de même sexe. L'année 2017 au Cameroun a été nourrie par de multiples violences et abus faits aux personnes LGBTI au quotidien. Et les personnes LGBTI restent et demeurent des proies à dévorer pour une société de prédateurs homophobes. Le rejet permanent du gouvernement du Cameroun des recommandations liées à l'orientation sexuelle et l'identité de genre formulées par la société civile et les gouvernements est motivé par la souveraineté de l'État, la loi camerounaise, je vous rappelle, et l'opinion publique qui en est défavorable. Aux États-Unis, un garçon de 10 ans crée un club, tenez-vous bien, de drag queen pour enfants. Desmond Napoles a décidé d'ouvrir le tout premier club de drag queen réservé à des enfants. Le jeune garçon, très populaire sur Instagram, est rapidement devenu une icône dans le milieu LGBT américain. Il dit avoir depuis longtemps qu'il est homosexuel, puisqu'il a toujours eu un faible pour les garçons. Il s'habille depuis qu'il est tout jeune avec les vêtements de sa mère. Il a participé en 2015 à la parade de la fierté LGBT de New York en drag queen, ce qui avait fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, qui lui était alors âgé de 8 ans seulement. Il a reçu, je vous rappelle, des centaines de témoignages, de messages de soutien, ce qui lui a donné l'idée d'ouvrir un club de drag queen, 10 ans. C'est jeune, hein? On ne sait pas. Vent de panique dans le paysage radiophonique. Mauvaise nouvelle. Tenez-vous bien, mon cher Sloan. Mauvaise nouvelle pour la radio communautaire CIBL de Montréal. Vous connaissez CIBL de Montréal ? La radio communautaire numéro 1, jadis. La radio, tenez-vous bien, madame, monsieur, a mis à pied des employés, salariés et bénévoles jusqu'à nouvel ordre. Selon nos sources, les crises répétées, la mauvaise gestion et les difficultés financières sont parmi les raisons de cette décision. Je vous rappelle que le directeur général de l'époque, Gilles Labelle, avait été congédié. Le directeur général de la station, Arnaud Larseneur, a démissionné il y a 3 semaines. Quel dommage. Vous savez, je connais très bien, mon cher Sloan, cette radio, car j'y ai fait mes premières armes dans les années 80, dans cette radio. Et d'ailleurs, plusieurs noms très connus du monde, du milieu médiatique, sont passés par cette radio, qui s'apprêtait d'ailleurs à célébrer son 38e anniversaire. Pas très loin de nous, hein, 30 ans, 38. Et merci pour vos nombreux messages, madame, monsieur, dans le cadre de la nouvelle année. J'en ai pigé un de monsieur Pessoa. Écoutez bien cela, monsieur Ballon. Il dit « Très belle année à toutes et à tous. Qu'elle vous apporte le meilleur dans l'ouvert de la vie. Ouvrez toutes les portes. Cassez les vitres des fenêtres. Supprimez les fermetures dans la vie trop fermée. Supprimez la vie trop fermée de la vie trop fermée. Que fermé soit être ouvert, sans fermeture à l'horizon de la mémoire. Que s'arrêter soit le nom ingénu de continuer. » Signé Pessoa. Vous avez compris quelque chose? Brisez les vitres! Il fera trop froid si on brise les vitres. Et si vous souhaitez participer à nos émissions, mesdames et messieurs, communiquer sur nos événements communautaires, envoyez-nous un courriel à popourri@cut.fm ou encore notre cher ami Sloan attend votre appel à l'île de Coco Beach, 40 degrés à l'ombre, 86 946 7000. Popourri chaud, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence. Et oui, le monde et les fans de la bonne musique française est en deuil en ce début d'année. La chanteuse française France Gall est décédée ce dimanche 7 janvier à l'âge de 70 ans après avoir lutté contre la récidive d'un cancer. Les amours de la chanteuse ont toujours été rythmés par la musique. De 1964 à 1967, elle vit une histoire passionnelle avec Claude François. Eh ouais, de leur rupture naîtra comme d'habitude. Elle partagera également sa vie avec Julien Clerc de 1970 à 1974. Elle le quitte vivant mal le fait de rester dans l'ombre de la star de la comédie musicale Hair, vous vous souvenez, après avoir brillé dans les années 60 grâce aux chansons écrites par Serge Gainsbourg. Poupée de cire, poupée de son, baby pop, les sucettes. On s'en souvient de sa victoire avec Poupée de cire, justement, dans un très grand Eurovision. En quelle année ? Hommage à France Gall.
Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons. Poupée de cire, poupée de son. Suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon. Celle qui danse sur mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Elle se laisse séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons, poupée de cire, poupée de son. Thank you.
dans un miroir dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Seule parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je ne suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son. Sous le soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de son.
Sur quelle planète suis-je tombée?
La planète Terre.
Bonjour.
RFI.
RFI, on en fait tout un monde.
Et oui, il y a des gens qui nous écoutent, mon cher Sloan, en direct de Miami, en Floride. Il a fait froid hein, cette semaine, me dit Marceline, la fondatrice de Ciné Franco, nous écoute peut-être sur Internet. Elle dit, Eric, tu m'as bien dit que France Gall n'est plus. Je n'arrive pas à y croire. Je la vois encore toute innocente et jeune chanter poupée de cire, poupée de son à l'Eurovision, je crois. Eh oui, vous avez raison. C'est une femme de ma génération. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une autre Hécatombe 2018. Merci Marcel et on passe donc vos commentaires. Et maintenant, place, madame, monsieur, à la chanson de l'année 2017 avec Despacito en exclusivité sur CUT 89,5 FM.
Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya me estás gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh, sé que te estoy gustando más de lo normal y que tus sentidos van pidiendo más. Vamos a tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca.
playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Bailalo, pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Vous aimez? Voyez ces gens, ces jeunes danser sur la plage. Mais vous savez que Porto Rico est encore sans électricité? Et on ne sait toujours pas le nombre de morts, parce qu'il ne faut pas toujours croire ce que la Maison Blanche vous dit, madame, monsieur. Je vous rappelle que vers 12h30, 12h35, nous allons recevoir monsieur Fougère Adolphe, qui est le président de la Maison d'Haïti du Grand Toronto, pour nous annoncer l'Assemblée Générale prévue pour le samedi 13 janvier 2018 à North York Civic Center. Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Et oui, madame, monsieur, vous savez, le 12 janvier 2010, on était là, Haïti était secoué par le plus violent séisme que le pays ait connu en 2 siècles. Nous allons faire un petit rappel en retour sur les événements, mais aussi qu'est-ce qui cloche en Haïti? Pourquoi ce désespoir chez les Haïtiens, surtout les jeunes qui s'exilent de plus en plus? Notre invité Lionel Trouillot, professeur de littérature, journaliste, cofondateur de plusieurs revues, sera des nôtres dès midi aujourd'hui à ne pas rater. Billet retour à Port-au-Prince, 8 ans après le séisme d'Haïti. Nous allons en parler aussi, mais tout de suite, nous allons faire un petit retour sur le lancement d'un album, mon cher Sloan, la jeune chanteuse caribéenne. Il y a un petit brin de culture métissée de Trois-Rivières à Québec chez elle. Ça, les gens n'en parlent pas. Je sais qu'elle a grandi à Paris. Elle était dans les studios de notre cher ami Claudie Sillard de Couleur Tropicale. On l'écoute. Voilà, Lee C. Nice Jean présente son premier album.
Ça commence là.
Ah, hey, Couleur Tropicale, oh, yeah.
Couleur tropicale.
On dirait de l'eau sucrée.
Tu montes, on monte, tu descends, on descend. Tu plonges dans la rivière, on remonte.
L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère.
Couleur tropicale avec Claudie Sillard.
Mathieu Salabert, Franck Baudin, bonne arrivée la famille du son d'Africa et de ses diasporas. Juste après les infos, il y aura D-Bange, Rocky Gold et les Camano pour la génération consciente et le Gold du jour pour les nostalgiques, pour celles et ceux qui aiment les plus belles années et en musique. La diaspora, justement, pour cette première manche, nous recevons une chanteuse et musicienne caribéenne. Sa musique est imbibée des identités musicales de ce 6e continent, de cette Caraïbe, de cette nouvelle humanité. Lee C. Nice Jean fait ses premières couleurs tropicales et, s'il vous plaît, en live.
J'aurais été sensible. Et bien évidemment d'un baiser sur tes lèvres, elle te rendrait la vie que tu lui fends du rêve. D'où lui vient-on cette capacité à tout te pardonner sans compter? Elle s'use à t'aimer de tout son cœur, sans qu'une seule fois ça ne t'effleure. Rien de tout ce que tu as pu inventer n'a suffi à te faire perdre en crédibilité. Elle est bien trop aveugle et fragile pour voir à quel point tu l'abîmes. Son beau corps t'appartient jusqu'à l'or. Elle pense que tu la désires encore et redoute ce jour où tu trouveras l'amour, celui qui s'empare d'un cœur pour toujours. Oh. je suis condamnée. Oh, je suis condamnée. Je suis condamnée. À vie, à mort, pour adoucir l'amertume de sa souffrance, elle s'enrobe de miel, nourrit sa dépendance, car elle fit le risque de perdre quoi la butiner. Si elle avait pu être maîtresse de vos destinées, elle ferait de toi un homme, un vrai père. Elle bâtirait pour toi un paradis sur terre. Elle serait à moitié ton second souffle. Elle te tendrait l'échelle au fond du gouffre. Elle serait ton âme sur ta confidente et bien plus plaisante que les précédentes. Dans cette histoire, ce sera le seul perdant. Et même si ce n'est pas des apprisants, un jour la roue de secours sera crevée, lasse, fatiguée d'avoir tant donné. Oh, je suis condamnée. Oh, je suis condamnée. Yeah, je suis condamnée.
Je suis condamné de Lucy Naïs Jean, qui est notre invité donc.
Dis donc, toi l'invité.
Ok.
Claudie va te poser des questions.
Ok.
Et tu vas lui donner les bonnes réponses.
Lucy Naïs Jean, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne arrivée.
Merci pour l'invitation.
J'ai envie de dire, même si ce single peut laisser penser que c'est un univers un peu sombre, quelque chose qui peut entrevoir quelques difficultés exprimées dans une chanson.
Alors c'est le seul titre qui est un petit peu triste dans l'album, ouais. Il me semble. Mais je raconte en fait l'histoire d'une femme qui se voue corps et âme à un homme, qui lui profite bien sûr de la situation, mais n'est pas forcément dans la même optique qu'elle de construire une vie, de construire quelque chose de sérieux.
Tu te dis,
donc,
ouais.
Bien sûr, les rôles sont interchangeables. Je raconte l'histoire d'une femme puisque je suis une femme, donc automatiquement je chante en leur nom. Mais voilà, c'est ce que ça raconte. C'est un amour à sens unique en gros.
Tu dis justement dans la chanson, tu l'as condamnée à vie, à mort, pour adoucir l'amertume de sa souffrance. Elle, dis-moi si je me trompe, s'enrobe du miel, nourrit sa dépendance.
C'est ça. Je sais pas, j'ai pioché ça.
Mais écoute, pourquoi je voulais évoquer ces phrases-là ? Finalement, c'est aussi une vraie chanson d'amour.
C'est une chanson d'amour. C'est une chanson d'amour. Donc,
de dévotion, certes.
C'est, oui.
Aveugle, oui. Probablement.
Ça reste de l'amour dans tous les cas. C'est en fait, j'essaie en gros de mettre à plat un peu l'amour sur toutes ses facettes quand mon album, en tout cas, raconte pas mal de choses différentes qu'on vit à travers l'amour.
Je viens de te présenter comme chanteuse, musicienne caraïbéenne. J'aurais pu citer la terre d'où tu viens précisément, mais j'ai l'impression que dans ta communication, tu souhaites que l'on dise avant tout que tu es caraïbéenne, sans renier évidemment d'où tu viens.
C'est ça, caraïbéenne. En fait, on est issu du métissage et je pense avoir une musique aussi métissée. Parce que comme je le dis souvent, j'aime tous les styles musicaux, j'ai pas de préférence, j'ai commencé par le zouk. Aujourd'hui, sur mon album, il y a de la pop rock, il y a de l'acoustique, il y a du zouk, il y a de tout en fait, j'aime pas me mettre de limites. Et je trouve que dire tout simplement que je suis originaire de la Guadeloupe ou de la Martinique, on peut avoir l'impression que je m'enferme dans un style qui est par exemple le zouk, puisque nous, dès qu'on dit qu'on est antillais, bon, on pense rom, zouk, voilà. Donc j'ai préféré m'ouvrir et ne pas non plus paraître chauvine, parce que moi, je suis là pour représenter la Caraïbe et non une seule île ou deux îles, ou je suis là pour représenter aussi le monde et l'humanité. Donc,
lorsque je disais tout à l'heure nouvelle humanité, tu te reconnais
dans cette
terminologie-là.
Exactement.
Et puis c'est le propre aussi de ce bassin caribéen, c'est par l'histoire, la violence de l'histoire, mais
c'est
aussi
ça.
Ce que cette violence a engendré, c'est-à-dire de rencontres, de métissage et d'un
nouveau
monde.
Je suis consciente d'être caribéenne, mais j'ai enrichi ma culture en grandissant à Paris et en découvrant d'autres choses, simplement. Ouais. Donc j'ai grandi avec des Maghrébins, des Africains, il y avait de tout autour de moi. Donc je me sens pas uniquement antillaise aussi. Je me sens caribéenne et je me sens française et je me sens comme tous ceux qui ont croisé ma route depuis ma plus tendre enfance, quoi.
Et appartenant à ce monde, quoi qu'il arrive.
C'est tout.
Puisque c'est la première fois que tu nous rends visite, nous allons te soumettre à une interview toute première fois. Quoi ?
Non, c'est ringard, on va pas le faire.
Non mais c'est non mais c'est peut-être ringard, mais c'est mon jingle.
Moi je juge pas. C'est pas mon métier.
C'est la première fois que tu te permets ça dans l'émission, mais c'est quoi ? C'est bon. Il a pas tort, c'est un peu ringard. Non, il a pas tort. Ça, c'est mon côté grand âge. Lissinaïs, Jean, la première fois que tu as décidé que tu chanterais en créole, en français et en anglais sur cet album, c'était quand ? Pourquoi ?
C'est vraiment par rapport à la mélodie que je trouve à la guitare. Et les premiers mots, c'est soit ils me viennent en français, soit ils me viennent en anglais, soit ils me viennent en créole. C'est pas quelque chose de réfléchi, forcément.
La première fois que tu évoques à tes parents ton envie de faire de la musique, d'en faire ton métier, comment ont-ils réagi et est-ce que ça a chauffé ?
Ça a un peu chauffé, on va dire. C'était plus de la crainte qu'ils avaient, parce que pour eux, ils s'étaient mis dans la tête que j'allais un jour trouver un métier comme tout le monde, entre guillemets, que j'allais poursuivre dans les études, que j'allais...
Caissière à Carrefour.
Et, par exemple. Donc j'ai fait de la commerce, de la cuisine. J'ai essayé la cuisine parce que je me suis dit, bon, c'est un petit côté artistique, peut-être que je vais m'y retrouver. Mais non, pas du tout. C'est, voilà, pareil pour le commerce. J'écrivais des textes en cours. C'était un peu n'importe quoi. Donc, à un moment, j'ai pris une année sabbatique où je n'ai fait que de la musique, évidemment. Bon, au jour d'aujourd'hui, ils sont plutôt rassurés et contents, quoi.
J'imagine.
Ouais.
Puis, lorsqu'on fait de la musique, on fait aussi un peu de commerce. Et lorsque l'on devient très célèbre.
Ça m'a servi, dans tous les cas.
Lorsqu'on devient très célèbre, on ouvre aussi parfois un restaurant.
Souvent, ouais. J'ai remarqué.
La première fois que tu as entendu Aimer, ton premier single, on est d'accord. Comment as-tu réagi? Comment l'as-tu vécu? Et c'était sur quelle radio?
Je ne sais plus si j'étais en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane aussi, je l'ai entendu.
Ouais,
j'ai dû retenir sur le coup, mais il se passe tellement de choses entre temps que voilà. Mais la première fois, j'étais super étonnée. Et à chaque fois, je faisais des... Il n'y avait pas encore Snap à ce moment-là, je crois, où j'étais pas encore dessus. Ouais. Mais je filmais, je mettais sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà.
Et ton cœur a fait boum quand même.
Bien sûr, puisque surtout qu'il n'est pas passé tout de suite en radio au début. C'était un peu remis en cause. C'était bon, c'est pas trop. On connaît pas trop ce créneau. Parce que bon, ça, c'est du zouk, mais c'est une... On va dire qu'il y a ma touche acoustique dedans. C'est pas un zouk qu'on a l'habitude d'entendre. C'est ça, j'étais à peine connue à part sur les réseaux sociaux.
Bah ouais.
Donc c'était un petit peu difficile à faire entrer en radio et au final quand c'est rentré, mais ça a fonctionné, ça a vraiment bien fonctionné.
La première fois que tu as dit « je t'aime », c'était où et t'en souviens-tu ? Te souviens-tu surtout de la personne même ?
C'est en Guadeloupe.
Je viens de voir tes yeux briller. La première grosse connerie dans ta vie ?
Premier contrat. On va parler cash. Mon premier contrat.
Bon, ton premier regret ?
Premier contrat. C'est ça. Enfin, regret, oui et non, puisque je ne regrette pas au final, parce que ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a appris surtout beaucoup de choses. Et il y a des erreurs que je ne referai pas, tout simplement.
Ton premier poste musical, justement, sur le net, c'était quoi et quand ?
Alors, ça devait être en 2009 ou 2010. Et c'était une composition instrumentale.
C'est 2009 ou 2010 ? Parce que 2009, c'était la crise de Guadeloupe-Martinique.
Entre les deux. Ça devait être fin 2009, début 2010,
ouais,
un truc comme ça. Je venais de faire une chaîne YouTube, ou peut-être que ça faisait un ou deux ans que je l'avais fait. Je sais plus. Et j'ai posté des vidéos où je composais avec mon clavier, des instrumentales. Et ouais, ça a commencé comme ça, et c'est bien après que j'ai décidé de chanter.
Que t'as dit Easy Kenenga après que tu aies fait sa première partie ?
Bah,
en 2014, c'est ça.
Ouais. Il m'a félicité, il était super content. J'ai pas eu l'occasion de parler longtemps avec lui, puisque vous savez déjà comment ça se passe après les concerts, c'est un peu dans l'agitation. Mais oui, on s'est revus après en Martinique. Et voilà, il était super content et c'était un honneur pour lui comme pour moi qu'on partage cette scène ensemble.
La première fois que nous nous sommes rencontrés, c'était où et quand ? Parce que je suis un petit peu vieux. La preuve, c'est que je mets des jingles de vieux.
Alors, c'est la première fois, c'était aujourd'hui. Je te connaissais déjà via les réseaux sociaux, même par rapport à tes chansons. C'est la première fois que je te vois aujourd'hui.
Je suis condamné, c'est le premier single que l'on a écouté tout à l'heure.
Voilà,
ton album éponyme est sorti le 3 novembre dernier.
Voilà.
On a réalisé un medley avec quelques chansons. Tu écoutes, tu réagis pendant ou après ? Là, on entend la diversité sur l'album, avec ce titre-là.
Encore tout top. Tout le monde écoute RFI.
Tout le monde écoute RFI.
RFI. RFI. RFI. RFI.
RFI, la radio du monde.
Haïti, 8 ans après. Le 12 janvier 2010, Haïti était secoué par le plus violent séisme que le pays ait connu en 2 siècles. Plus de 220 000 personnes sont mortes, 300 000 ont été blessées et plus d'1,5 million se sont retrouvés sans abri. 8 ans plus tard, la situation est toujours critique malgré l'afflux de l'aide internationale. Qu'est-ce qui cloche en Haïti? Pourquoi ce désespoir chez les Haïtiens? Et tant de jeunes qui s'exilent. Ne ratez pas l'entretien avec notre invité star de la journée, Lionel Trouillot, qui est professeur de littérature, journaliste, cofondateur des revues L'Arc-en-Ciel, Thème et Langage, membre du collectif de la revue Cahier du Vendredi et co-directeur de la collection du même nom. Il sera des nôtres dès midi. Et oui, en ce dimanche 7 janvier, Popori s'en souvient. Billet retour à Port-au-Prince, 8 ans après le séisme. Haïti pourrait être la petite sœur francophone de la paradisiaque République dominicaine, mais le sort ces dernières années en a décidé bien autrement. Nos reporters, Eve Irvine et Alexandra Renard, sont retournés dans la capitale, Port-au-Prince, depuis le séisme. Constatation, le choléra et les ravages des cyclones des dernières années. Elle dresse le portrait de Port-au-Prince d'aujourd'hui. Soleil, tourisme et cocotiers, à l'ombre des centaines de milliers de réfugiés. Reportage de France 24.
Souvenez-vous de cette image, elle a fait le tour du monde. Kiki, un petit garçon de 7 ans, est secouru après 8 jours passés sous les décombres. Il a survécu à ce 12 janvier 2010. Il est à peine 17 heures alors que le soleil brille encore. Port-au-Prince est brutalement plongé dans le noir. Un manteau de poussière recouvre la ville. Pendant 35 secondes, un séisme de magnitude 7 fait trembler la capitale haïtienne et ses environs. Les bâtiments officiels, le siège de la MINUSTAH, la mission des Nations Unies, les immeubles en mauvais béton, les bidonvilles accrochés aux ravines s'effondrent comme des châteaux de cartes. Le bilan fait frémir, plus de 250 000 morts, 300 000 blessés, 1 300 000 sans-abri réfugiés dans des camps d'urgence. Le président lance un appel à l'aide.
La priorité, c'est mettre la MINUSTAH et le gouvernement en état de travailler. Vous avez vu que le building de la MINUSTAH s'est effondré avec le secrétaire général, le représentant du secrétaire général, son assistant et tout le staff est mort. Il y a des milliers de cadavres qui risquent de créer des épidémies. Il faut, on a déjà commencé à enlever les cadavres.
3 ans après ce séisme dévastateur, que reste-t-il des rêves de reconstruction d'Haïti, le pays parmi les plus pauvres au monde? 360 000 personnes s'entassent toujours dans des tentes insalubres, sans sécurité ni intimité. Les bidonvilles ont repeuplé les collines, alors on s'interroge, mais où est donc passé l'argent des dons? Il a certes permis de sauver des vies, mais le pays est toujours à terre.
J'ai un message pour les donateurs internationaux. On n'a pas de travail, on a besoin d'argent, mais l'argent donné pour aider la population d'Haïti est utilisé au profit d'autres personnes. Elles achètent des voitures de luxe, se payent de belles chambres d'hôtel et vont dans des restaurants à prix élevé, vous comprenez. Elles payent en dollars américains et nous, on n'a rien.
Haïti, terre maudite, une épidémie de choléra qui s'est durablement installée, 2 ouragans dont les stigmates sont encore visibles. Billet Retour est allé à la rencontre de ces familles qui, à chaque pluie, passent la nuit à protéger les rares biens qu'il leur reste. Ces familles qui redoutent le prochain cyclone et qui n'osent rêver à un avenir meilleur. Reportage signé Alexandra Renard et Yves Irvine.
« 1500 km de plages paradisiaques naturelles, cocotiers et cocktails à volonté, Tahiti. Non, Haïti. Le pays partage la même île que la très touristique République dominicaine. Ces deux vacancières viennent des États-Unis. Ariel est haïtienne, Annie, américaine.
J'ai visité différentes îles des Caraïbes et je ne dirais pas qu'elles ne sont pas belles, mais elles sont beaucoup plus petites. À côté, Haïti est immense. Si vous voulez des montagnes, il y a des montagnes. Si vous voulez des plages, il y a des plages. Si vous voulez des rivières et des cascades, nous avons tout ça. Nous devons juste apprendre à mieux utiliser ces ressources.
Ce que l'on entend tout le temps sur Haïti, c'est que c'est un pays du tiers-monde qui essaie de se reconstruire après le tremblement de terre. Mais venir ici et voir cela de mes propres yeux, voir ce que c'est vraiment, c'est assez impressionnant.
À une heure de Port-au-Prince, cette petite famille haïtienne s'offre deux fois par an une journée dans ce paradis. Buffet, transat, parasol et plage privée, l'escapade revient à une centaine de dollars américains. Pour Mona, enseignante comme son mari, c'est une grosse somme.
C'est cher quand même. C'est carrément cher. Les prix sont en dollars américains. On peut venir quand même parce que c'est beau, c'est bien, mais c'est dans le pays. D'accord? Mais bon, on ne peut pas venir tous les jours.
Pas de temps à perdre. En quelques minutes, toute la famille est à l'eau.
C'est comme si on est complètement éloigné de tout ce qui s'est passé à Port-au-Prince, de tout ce qu'il y a de salubre, de tout ce qu'il y a de bruit, de tu vois, tout ce qu'il y a de mauvais, si on peut dire. Et puis on est venu là pour dire que bon, ouf, c'est pas Port-au-Prince, c'est la plage, c'est la belle vie, quoi.
Mais il faut partir une heure avant la tombée de la nuit, car certains quartiers de Port-au-Prince sur le chemin du retour sont dangereux à traverser. 6 heures le lendemain matin, Port-au-Prince. Mona prépare son fils pour l'école. À Haïti, l'uniforme est obligatoire.
C'est quoi ça?
Tu veux t'asseoir pour manger ça? Ok. Avance, viens.
Pour 600 euros par mois, le couple loue ce 2 pièces, épargnées par le CIMANT, avec une électricité capricieuse.
Il y a souvent des coupures. La soirée, on a passé la soirée sans électricité.
La moitié du budget de la famille passe dans l'alimentation. L'autre moitié paie le loyer, l'habillement et surtout l'éducation de leur fils unique. Cédric est inscrit depuis 2 ans dans cet établissement privé. À Haïti, 80% des écoles sont payantes. Ici, les enfants apprennent l'informatique et les langues étrangères.
Tout le monde parle créole ici, d'accord? Mais lui, il parle créole aussi. Mais on aimerait qu'il ait un plus, qu'il ait la langue française, qui est la deuxième langue. On aimerait qu'il parle cette langue-là. Voilà. Alors ici, on nous aide à faire ça.
Dans cette école, tous les enfants sont trilingues.
Oh. Good morning, guys.
Good morning, Fabienne.
How are you today?
I'm thank you.
I'm good.
No.
Show me red, the color red. Good, touch red.
Plus de décombres, plus de palais présidentiels effondrés et plus de tentes sur le célèbre champ de Mars. Aujourd'hui, Port-au-Prince retrouve son visage presque habituel, celui d'une capitale extrêmement pauvre, surexposée aux catastrophes naturelles. 300 000 réfugiés du séisme vivent encore sur les camps. Sur cette place, 2 milliers d'entre eux luttent encore pour leur survie. Sans eau potable, ni toilette, ni électricité. Ici, les ONG ont fui. La police aussi. Résultat, vols, agressions et viols sont devenus quotidiens. Clarisse a perdu son mari et sa maison le jour du tremblement de terre. Depuis, elle vit sans ressources ici avec ses 3 enfants. Une nuit, elle a été agressée.
La police, je connais mon vieux pote, elle me garde, c'est
Ils disaient qu'ils étaient de la police, donc j'ai ouvert la porte. Quand j'ai ouvert, j'ai vu arriver 5 hommes armés. Ils m'ont attrapé, bandé les yeux. Je ne savais pas qui me faisait ça. J'ai compris que ce n'était pas la police quand ils m'ont jeté sur le lit et ont commencé leurs attouchements. J'ai essayé de chercher ma fille dans le noir et puis j'ai compris qu'ils l'avaient prise aussi. Ils nous ont violés, ma fille et moi. Puis ils se sont relevés et nous ont violemment frappés. Des coups au visage, des coups au ventre, parce que j'avais essayé de résister.
Malgré les violences, tous restent dans leur tente de fortune. Pas le choix. Mais la mairie veut désormais faire place nette.
Ce vendredi, après tout ce qu'on a subi, ils ont inscrit à démolir et on nous a donné ce petit coupon. En échange, ils nous ont promis qu'ils nous donneraient 350 euros.
350 euros, l'équivalent d'un an de loyer à Port-au-Prince, d'après les calculs de la mairie. Pour Mona, l'enseignante, la vie au quotidien est comme celle de nombreux Haïtiens. Colorée et gaie, dans un environnement difficile, permanent. Pauvreté, système politique à plat, cyclone, séisme et choléra asphyxient cette capitale aux plaies béantes. Sur le marché principal, vendeurs et acheteurs évolue au milieu de centaines de bâtiments effondrés.
Là, le tremblement de terre est vivant. Quand c'est à la ruine comme ça, quand on sort dans la pouvoir pour regarder ces ruines-là, on pense que le tremblement de terre, c'était hier.
Ici, rien n'a été reconstruit. Si certains vendent sous des parasols, d'autres se sont réinstallés à l'ombre de leur magasin, en ruine.
Mais nous conscients quand même des dangers que ça représente.
Oui,
Sur les 40% d'Haïtiens qui travaillent, seul un tiers est dans l'agriculture. Insuffisant pour couvrir les besoins du pays. Concurrence américaine et cyclone ont contraint Haïti à importer 80% de ses besoins en riz, exclusivement des États-Unis. Mona achète le riz local et boycotte le riz américain, pourtant beaucoup moins cher.
C'est bio, si on peut dire, d'accord. On n'utilise pas beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides comme ça pour infecter ces riz-là. Il s'agit du pays, même quand c'est plus cher, mais c'est plus sûr pour la santé.
À quelques centaines de mètres du marché, Mona nous entraîne vers le cœur de Port-au-Prince, le Champ de Mars. Derrière ce mur de tôle, le futur ministère de l'Intérieur. Mona se réjouit qu'ici son pays se reconstruise. Le jour du séisme, 90% de l'administration haïtienne s'est effondrée. Aujourd'hui, Dominicains et Haïtiens, ex-frères ennemis, travaillent main dans la main.
Ce sont les Dominicains qui ont donné les équipements et le savoir-faire technique. On travaille avec eux, mais en même temps, on apprend aussi. Et un jour, Haïti pourra gérer lui-même ses chantiers. Si nous, les Haïtiens, nous parvenons à nous serrer les coudes et à travailler ensemble comme le font les Dominicains, le travail sera fait plus rapidement. Le problème est que nous sommes tout le temps en train de nous chamailler, de nous battre pour ces emplois, et cela nous divise et nous empêche d'avancer.
Difficile néanmoins de tout oublier.
Pendant le tremblement de terre, le bâtiment s'est effondré, étage par étage. Beaucoup sont morts ici. L'accès était très difficile pour pouvoir dégager les gens qui étaient sous les décombres après le séisme.
Dans ce bâtiment privé qui, depuis le séisme, accueille la mairie de Port-au-Prince, Clarisse essaie, elle, de se reconstruire. Munie de son petit coupon, elle a quitté le camp tôt ce matin. Après ses 3 heures de marche, elle vient, comme tous les autres réfugiés convoqués ce jour-là, chercher son argent qui lui permettra de trouver un logement.
Nous donnons le chèque à cette personne et la personne-là, il va vivre là où il veut, où c'est la personne, ou s'ils veulent retourner chez eux dans un autre endroit, ils peuvent y aller.
Un chèque équivalent à 350 euros, c'est peu, mais en 3 ans, jour pour jour, c'est son premier signe d'espoir.
Je suis heureuse. Grâce à Dieu, je peux maintenant essayer de trouver un autre logement pour vivre avec mes enfants.
Mais le retour est brutal. Le camp a été littéralement rasé par les agents de la mairie. Sans aucun avertissement pour sauver le peu qu'elles avaient, 600 familles sont à la rue.
Regardez, ils ont tout pris. Nous n'avons plus que nos vêtements sur le dos. Ils ont tout détruit, pris notre argent. Et ils étaient violents.
Ce sont les hommes du maire qui ont envoyé des gens avec des haches et des masses pour nettoyer la zone. Ils ont mis nos maisons à sac. Ma maison était là. Ils l'ont détruite avec tout ce qu'il y avait dedans. Ils ne nous ont pas laissé le temps de ramasser nos affaires. Ils ont jeté tout ce que j'avais. Je suis ici depuis le 12 janvier 2010.
Ils ont crasé ma maison. J'ai 4 enfants. J'ai une femme. Et maintenant, je suis dans la rue. J'ai rien encore reçu. Voilà le coupon.
Chacun est sous le choc. Pour tous, c'est un deuxième séisme.
Ils ont tout détruit. Je n'ai plus rien à faire ici. Voilà où j'en suis. Excusez.
Plus une minute à perdre, Clarisse doit trouver un toit avant que la nuit ne tombe. Ce même après-midi, Mona, elle, va à son travail. Un lycée public qui a été lourdement endommagé pendant le séisme. Mais miraculeusement, aucune de ses fillettes n'a été blessée. Dans le pays, près de 40 000 élèves et enseignants ont péri sous les décombres. Ici, le bâtiment est resté figé comme au jour du 12 janvier 2010. Les promesses de dons sont restées des promesses. À quelques mètres du béton meurtrier, les 1600 lycéennes étudient dans la cour, dans des préfabriqués. Mona est auxiliaire. Elle veille au bon déroulement du contenu des cours.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur le 151e de l'indépendance? Après l'occupation, nous retournons dans les mêmes problèmes. Il y a toujours une bataille pour le pouvoir. Toujours des crises jusqu'à nos jours. On est toujours sous la tutelle des autres pays. Au point de vue diplomatique, il y a l'allée, il y a du bruit à gauche, du bruit à droite. On est toujours obligé de faire silence, silence, silence de temps en temps pour pouvoir travailler. Et ceci, c'est dans toute l'école.
Des conditions difficiles, mais aucune de ces élèves ne manquerait un seul cours. En Haïti, seule la moitié des enfants est scolarisée, faute d'école dans le pays. Valencia, comme ses copines, s'accroche malgré les difficultés.
J'aime la médecine, mais malheureusement, c'est très, très difficile pour entrer. Il faut avoir des gens, des parrains, des marraines, comme ça.
Alors toi, tu vises médecine, mais tu es quasiment sûre de ne pas y arriver, c'est ça?
Oui.
Qu'est-ce qui te motive alors?
Avec l'aide de Dieu et puis l'espoir. L'espoir fait vivre.
Eh oui, triste, 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 triste de ce qu'on vient d'entendre. Nous remercions beaucoup les reporters de France 24, Eve Irvin et Alexandra Renard de France 24. Je vous rappelle que nous allons recevoir vers midi, midi 5, un invité spécial, Lionel Trouillot, qui est très connu d'ailleurs dans le monde littéraire. Il est professeur de littérature, journaliste, cofondateur des revues L'Arc-en-Ciel, Thème et Langage, membre du collectif de la revue Cahiers du Vendredi et co-directeur de la collection du même nom. Il sera des nôtres, donc à ne pas rater. Et oui, et dans un instant, je vous reviens avec quelques grands titres avant les nouvelles. Et oui, mon cher Sloan Ballant, ça va? Toujours en forme? Et la Maison d'Haïti de Toronto sera des nôtres pour nous annoncer son Assemblée Générale le samedi 13 janvier 2018 à North York Civic Center. Nous recevrons Fougère Adolphe pour la première fois cette année 2018 et le président de la Maison d'Haïti du Grand Toronto. Et puis, vous avez reçu une invitation, mon cher Sloan Ballant. Pour nous remercier, il va avoir un appreciation bash de CIUT au Lula Lounge, jeudi 18 janvier à 20h30. Vous êtes invités avec vos amis, tous ceux et celles qui ont contribué au succès de CIUT, surtout pour les dernières levées de fonds de novembre. Donc, mon Dieu, vous êtes très important. Hein? Alors, si cela vous intéresse, madame, monsieur, écrivez à monsieur Sloan Ballant, si vous voulez l'accompagner. C'est prévu pour le 18 janvier, c'est un jeudi à 20h30, au Lula Lounge Bar, qui est situé à 1585 Dundas West. Les portes s'ouvrent à 20h30, accompagné de monsieur Sloan Ballant, notre nom. Moi, je ne serai pas là. je serai quelque part. Puis bonjour à Madame Marceline qui nous écoute sur Internet. Il a capté l'émission. Il vous dit bonjour, Madame, Monsieur. Il nous envoie du soleil de la Floride. Dans un instant, le point de l'actualité avec Radio France Internationale. Bonne et heureuse année à tous et à toutes.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you funk, soul, and everything in between on Higher Ground with Jason Palma. Thursday nights at 8. CIUT 89.5 FM, the sound of your city. CIUT 89.5 FM, bringing you the sound of your city for 30 years.
Universel.
Namori Dosso.
Au moins 25 personnes sont mortes noyées au large de la Libye dans le naufrage d'une embarcation transportant environ 150 migrants. C'est ce qu'ont indiqué hier soir deux ONG de secours. Les gardes-côtes italiens, pour leur part, ont annoncé avoir secouru 85 personnes et repêché 8 corps. Les tentatives pour rejoindre l'Europe se poursuivent toujours hier soir. Plus de 200 migrants ont réussi à traverser la double clôture séparant le Maroc de l'enclave espagnole de Melilla. Au Sénégal, la région de Casamance endeuillée par un regain de violence. Hier, 13 jeunes partis couper du bois malgré l'interdiction des autorités et du mouvement des forces démocratiques de Casamance ont été tués par une bande armée. Les faits se sont déroulés dans la forêt classée des Bayotes près de la frontière avec la Guinée-Bissau. Le livre de Michael Wolff, Feu et Fureur, enflamme la politique aux États-Unis. Le président américain Donald Trump a réagi à sa publication. Les aptitudes mentales du 45e président des États-Unis ont été remises en cause dans cet ouvrage qui revient également sur les dysfonctionnements au sein de la Maison-Blanche depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. C'est donc face à cette situation critique que le président américain s'est décrit hier comme un génie très équilibré, tout en mettant en avant ses facultés intellectuelles dans une série de tweets. La vague de froid extrême se poursuit aux États-Unis. Les températures sont bien en dessous des normes saisonnières. Le nord-est du pays est paralysé. Le trafic aérien reste très perturbé. À New York, le thermomètre est descendu à moins 10 degrés. L'Hudson River, le célèbre fleuve de l'État de New York, est partiellement gelé. La population cubaine a rendez-vous dans les urnes le 11 mars prochain. La date a été fixée par le Conseil d'État cubain. Les élections générales sur l'île communiste se désigneront les délégués des provinces et les députés de l'Assemblée nationale. Un processus qui aboutira le 19 avril à l'élection d'un nouveau président pour remplacer Raúl Castro. En France, dans le sillage du mouvement Balance ton port et la libération de la parole féminine, c'est désormais au tour d'un parti politique français d'être dans la tourmente. Plus précisément, le mouvement des jeunes communistes rattachés au Parti communiste français, en cause des dizaines de témoignages de jeunes militantes qui disent avoir été victimes d'attouchements sexuels et de viols, des témoignages qu'a révélé hier le quotidien Le Monde. En France, l'enfant de 2 mois enlevé par son père vendredi soir dans un hôpital de Toulouse a été retrouvé sain et sauf. Son père a été placé en garde à vue. Enfin, les sports avec les 32e de finale de la Coupe de France. Qualification de Lyon dans le temps additionnel face à Nancy. Qualification également pour Lille, Toulouse, Monaco ou encore Caen. Suite de cette 32e journée de finale des Coupes de France. C'est ce soir notamment avec le match Rennes-Paris-Saint-Germain. 1h33 à Paris.
RFI, la mondiale. Il y a bientôt 4 ans, afin de créer un concours permettant aux artistes du Sud de sortir de leur isolement et d'accéder à la scène internationale. Ainsi naquit le concours Découverte, qui s'est progressivement ouvert à toute l'Afrique francophone, puis anglophone et lusophone, et enfin aux Caraïbes et à l'Amérique latine. Découverte est donc naquit, qui s'est progressivement ouvert à toute l'Afrique francophone, puis anglophone et lusophone, et enfin aux Caraïbes et à l'Amérique latine. Découverte est donc bien aujourd'hui le plus grand concours musical au monde. Mais revenons à 81. Le grand gala...
Cap dirigeant Haïti, soi-disant dirigeant, c'est pas des dirigeants, c'est des mouns qui ont pesé sous ses pas dirigeants, parce que les dirigeants, c'est des mouns qui ont payé une orientation, une vision, un plan de développement. Je ne dis à fois, que cadavres amis, cadavres familles, cadavres grenègues, pourri dans la rue, même j'ai un cadavre malheureux.
Mais la situation que nous y est dans le pays d'Haïti.
Ex-bord permanent président, sort mouille la Kali, là. Kali croisé sous lui, même j'ai un cadavre malheureux. Donc ça veut dire que nous, toutes nos victimes, de façon que mouns saillent au même pays. Nous ne sommes pas capables de continuer à mener le pays comme ça.
Il y a un problème d'urbanisme et les gens construisent n'importe comment. Tout ça est dû à l'instabilité.
Et tout ça est dû à un manque de gestion, de prise en charge par l'État haïtien.
Vous ne pouvez pas être chef d'État et vous dites que ce sont des constructions. Mais qu'est-ce que vous faites? Où se trouve l'État?
Pour que ça se fasse vraiment, il faut une stabilité dans le pays. On doit sortir du cycle des coups d'État.
Ou n'importe quoi, la seule explication pour lui, c'est les coups d'État. Il a valu le coup d'État, lui.
On doit avoir le temps de construire l'État et de gérer les choses.
Haïti, don't cry, pas crier, Haïti. Ce dimanche 7 janvier, CUTFM commémore le 8e anniversaire du tremblement de terre qui a dévasté Haïti, un 12 janvier 2010. Plus de 250 000 personnes ont perdu la vie dans cette catastrophe. 300 000 autres ont été blessés. 1,5 million d'Haïtiens se sont donc retrouvés dans les rues. 8 ans plus tard, la situation est toujours critique, malgré l'afflux de l'aide internationale. Mais qu'en est-il d'Haïti en 2018? Quels sont les progrès réalisés depuis? Qu'en pensent les Haïtiens, surtout ceux et celles engagés dans la justice sociale en Haïti? Notre invité est romancier, poète. Il est né à Port-au-Prince, issu d'une famille d'avocats. Il entame des études de droit, mais très vite se fait remarquer par ses écrits. Il apporte sa contribution à différents journaux et revues d'Haïti et de la diaspora, dans lesquels il publie de nombreux poèmes et textes critiques. Il est très engagé dans la résistance à l'oppression de son pays, qu'il a toujours refusé de quitter. Dans les années 1990, il anime Cultura, une revue littéraire lancée dans le cadre du projet franco-haïtien de promotion du livre et de la lecture. Aujourd'hui, il vit et travaille toujours dans sa ville natale. Professeur de littérature à l'Institut français d'Haïti et à l'Université Caraïbe, il poursuit parallèlement ses activités littéraires en publiant une œuvre poétique et romanesque de première importance, des poèmes composés en créole et des romans écrits en français. En France, ses œuvres sont publiées par Actes Sud et Rive-Neuve Éditions. Membre très actif du collectif Non, qui s'est créé à la fin de l'année 2003, au moment des événements tragiques d'Haïti qui ont donné lieu au départ du président Aristide. Notre invité est un membre engagé sur le front de la résistance à la dictature et de la reconstruction démocratique d'Haïti. Il n'hésite pas à mettre sa notoriété et son action au service d'une cause dont il est sans cesse conteste l'un des porte-parole les plus écoutés. Et oui, il est président de l'association Étonnant Voyageurs d'Haïti. Grâce à RFI, nous pouvons avoir de temps en temps des extraits. Mesdames, messieurs, dans un instant, c'est avec une grande joie que j'ai le plaisir d'accueillir pour vous Lionel Trouillot en direct de Port-au-Prince. Monsieur Lionel Trouillot, bonjour et bonne année à vous.
Bonjour et une bonne année à vous tous.
Oui, alors nous sommes très heureux de vous avoir. Merci d'avoir pris quelques temps pour nous entretenir. Vous êtes, je pense, notre premier invité de marque pour le début de cette année, première émission de 2018. Donc nous sommes vraiment très choyés et très contents. Alors, crise après crise, pauvreté, instabilité politique, de la misère économique et de catastrophes naturelles, les habitants d'Haïti sont régulièrement frappés par le malheur, n'est-ce pas? Et en tant que personne engagée, poète, écrivain, Pourriez-vous nous décrire la situation actuelle depuis le tremblement de terre de 2010?
Écoutez, bon, déjà, quant à votre formulation, elle est un peu catastrophique. Il y a une sorte de catastrophisme qui se met en place au niveau du discours lorsque l'on parle d'Haïti. Il y a eu tout ce que vous avez dit, mais il y a aussi un peuple qui résiste aux violences sociales. Et je crois qu'il faut d'ailleurs distinguer ce qui relève de l'ordre naturel et ce qui relève du social. Maintenant, des années après, écoutez, rien n'a changé sur le plan structurel.
C'est vrai.
Ce qui a relativement changé, c'est qu'il y a un système de représentation politique sur le mode de la démocratie formelle qui semble rouler, mais c'est une apparence, une parodie plus qu'une réalité. Disons que nous avons, au grand plaisir de la communauté internationale et des personnes mal élues qui revendiquent leur pouvoir à partir de ces élections, il y a une sorte de routine qui s'est installée d'élections présidentielles, législatives, même municipales. On est dans cette routine de la représentation par la démocratie dite formelle.
Oui.
Mais sur le plan social, rien n'a changé. Les inégalités sociales sont restées les mêmes, non pire, elles se sont accentuées. La pauvreté est une évidence dans la réalité haïtienne. Vous la voyez dans les rues, vous la voyez dans les campagnes, mais en même temps du lieu du pouvoir. Et quand j'ai dit du lieu du pouvoir, aussi bien international que le pouvoir national, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on fait comme si les choses allaient bien.
Oui. Vous savez, avec tout le respect que je vous dois, beaucoup d'Haïtiens et certains médias trouvent que les fonds accordés des organismes internationaux n'atterrissent pas toujours dans les bonnes mains. Certains Haïtiens disent qu'il y en a certains qui en profitent, qui s'enrichissent, tandis que les victimes, les pauvres, en souffrent. Il y a aussi cet exode de beaucoup, beaucoup de jeunes Haïtiens qui décident de quitter Haïti pour aller vers d'autres cieux. Est-ce la réalité? Parce que moi, j'interprète ce que les médias et les amis haïtiens qui demeurent en Haïti ou à Montréal, à Toronto, à Ottawa me racontent. Est-ce vrai ou pas?
Déjà, sur le plan de la réalité, c'est vrai que les jeunes partent. C'est vrai que les jeunes partent, les jeunes des classes moyennes défavorisées, les jeunes originaires des milieux paysans, c'est vrai qu'ils partent vers toutes les destinations possibles. L'Amérique latine aujourd'hui semble avoir remplacé les États-Unis, mais en même temps, l'Amérique latine, c'est une destination que beaucoup jugent temporaire pour finir par arriver en Amérique du Nord. C'est vrai que quand vous êtes à l'aéroport de Port-au-Prince, il y a des matins où il est même difficile de marcher à l'intérieur de l'aéroport tant qu'il y a du monde. C'est vrai qu'il y a des départs massifs, donc ce qui témoigne d'un désespoir de la part de la jeunesse, mais c'est un phénomène dont on ne parle pas assez. Les jeunes haïtiens partent. Maintenant, sur la question de l'aide, vous dites que l'aide n'a pas atterri dans les bonnes mains. Et dans beaucoup de cas, je crois que c'est documenté par les Américains eux-mêmes. Et puis, si vous regardez le documentaire de Raoul Peck sur l'assistance mortelle, déjà cette aide, non seulement elle n'est pas arrivée aux prétendus destinataires qui sont les pauvres, les gens qui ont des situations difficiles en Haïti, elle n'a même pas transité dans les mains d'Haïtiens qui auraient pu s'en servir personnellement. Donc, s'il y a corruption, il y a corruption de la part des représentants des donneurs en Haïti. Ceci, c'est une chose qu'il faut souligner. Déjà, quand moi je lis un rapport d'une instance américaine sur 80% sur 80 centimes d'un dollar américain donné à Haïti n'arrive pas au destinataire désigné. Donc il y a un problème. Il faudrait, pour établir vraiment les mécanismes de la corruption, voir par où et par qui transite cette aide massive. Vous savez, moi j'ai toujours dit à des amis étrangers si vous voulez aider Haïti. D'abord, demandez aux Haïtiens ce dont ils ont besoin. Ensuite, essayez de trouver les gens ou les institutions qui agissent dans tel domaine. Vérifiez leur action et venez en soutien de ces actions-là. Mais cet argent donné de manière massive à des institutions étrangères pour faire les choses en Haïti, je crois que le vrai gaspillage, il est là.
Oui. Nous avons un ami ici de la radio, un grand ami de longue date, qui lui me dit, Stanley Lavallois, on peut le citer, il me dit, moi je préfère aller en Haïti et aider les organismes, les gens, personnellement, je suis sûr que c'est la bonne façon parce qu'il n'a pas tellement confiance justement dans ces organismes. Alors il y a beaucoup de gens de la région d'Ottawa, de Toronto et même sur, grâce à Internet qui nous écoutent en ce moment. Monsieur Lionel Trouillot, vous qui êtes très engagé, d'ailleurs, vous ne voulez pas quitter votre pays, malgré tous les problèmes, les difficultés. Quel message envoyez-vous ce matin, heure de Toronto, à tous ces dirigeants, ceux et celles qui sont responsables de ces organismes ONG, qui ont le pouvoir de changer les choses? Quel message aimeriez-vous les envoyer ce matin?
Écoutez, honnêtement, je ne pense pas que ce soit à... Si vous parlez des institutions internationales, des ONG qui sont inscrites, si vous voulez, dans ce commerce de la pauvreté, je ne vois pas l'intérêt de leur adresser la parole. En revanche, si vous parlez de personnes ou même d'institutions de la société civile qui modestement, d'un point de vue, je dirais, humain, intellectuel, parce que c'est d'abord aux Haïtiens de décider de ce dont ils ont besoin, et qui modestement aussi, qui veulent aider sur le plan économique, sur le plan social, absolument, commencez par écouter les Haïtiens. Commencez par voir les analyses, par suivre les analyses des Haïtiens sur les besoins de la population. Ensuite, vérifiez qui travaille, qui fait quoi dans le concret. Et c'est cela. Moi, j'aime bien donner cet exemple. J'ai été invité une fois par une école dirigée par les Haïtiens. Je ne vais pas la nommer. Elle est dirigée par les Haïtiens, je ne savais même pas qu'elle existait, cette école. Et elle est quelque part financée par des Canadiens, des citoyens canadiens. Quand je suis arrivé dans cette école, dans une sorte de trou perdu, et j'ai vu que ça fonctionnait, j'ai vu qu'il y avait vraiment un enseignement qui était transmis, et je me dis que cet argent-là, ce n'est pas de l'argent gaspillé, de l'argent jeté, comme on dit chez nous, parce que les gens, en toute modestie, ils sont venus aider des gens sur place qui travaillent. C'est vraiment cela qu'il faut faire, voir dans quel domaine il y a urgence et qui travaille dans ces domaines-là de manière concrète et efficace.
Alors, après les tremblements de terre, le gouvernement américain avait lancé une grande campagne de solidarité et je pense qu'on avait envoyé la famille Clinton. Là aussi, on a entendu des rumeurs que ce n'était pas très efficace, cette aide menée par la Fondation. Je ne sais pas si c'était par la Fondation Clinton ou le gouvernement canadien, mais américain. Mais les Haïtiens n'étaient pas très, très heureux de la façon dont l'aide était dispensée aux Haïtiens, aux victimes surtout.
Écoutez, je ne vais pas entrer dans le détail parce que je n'ai pas les chiffres en fait, mais là, comme je vous l'ai dit, il y a une référence qui s'est imposée, c'est le film de Raoul Peck, Assistance mortelle, dans lequel justement Raoul suit le travail, la présence, il faut appeler ça du travail, je ne sais pas comment a fonctionné la présence des représentants de cette aide américaine à Haïti et comment cela s'est révélé d'une inefficacité incroyable.
Alors,
donc, pour ça, ce n'est même pas une rumeur, c'est quelque chose qui est documenté.
Incroyable. J'aimerais, peut-être vous avez un point de vue personnel ou pas, mais en tout cas on parle beaucoup ici au Canada de ces réfugiés haïtiens qui doivent déménager là, des États-Unis. On sait bien que le gouvernement américain à l'époque de Barack Obama avait donné une certaine terre d'asile temporaire aux victimes du tremblement de terre. Et là, avec le nouveau gouvernement américain et la Maison Blanche, Il faut que ces gens déménagent d'ici à la fin du mois, je pense, et il y en a beaucoup qui frappent aux portes, aux frontières canadiennes. Ça, c'est une vraie crise, à mon avis. On parle de plus de 80 000...
Écoutez, c'est une droite, bon. Oui, mais c'est une droite sauvage et sans complexe qui a pris le pouvoir aux États-Unis. À la différence de celle qui l'a précédée, elle ne verse pas dans l'hypocrisie. Et là, on voit le capitalisme et le racisme dans leur vérité profonde.
Mais c'est triste.
Donc, je ne vois pas ce qu'il y a d'étonnant dans la politique de ce gouvernement américain. C'est sa ligne, c'est sa ligne, et c'est une ligne, c'est la ligne d'une droite dure et on peut le dire raciste.
Mmh. Je sais que vous avez un temps très limité. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous, mais j'aimerais parler d'un article dans le journal Libération publié en 2016 lors d'un entretien. Vous avez dit que vous dénoncez la mainmise des sectes religieuses évangélistes sur Haïti. Je cite, « Les églises évangéliques sont la plus grande catastrophe morale qui est tombée sur Haïti. »
Totalement. Il y a eu les catastrophes naturelles, mais ce n'est pas le pire. Il y a eu des catastrophes sur le plan de la gestion. Moi, j'ai toujours dit que la vraie catastrophe, ça a été la gestion de la pré-tremblement de terre. Et il y a aussi des catastrophes symboliques. Et pour moi, l'une des plus grandes catastrophes symboliques, c'est justement cette infestation par les sectes. Écoutez, je ne suis pas en train de faire le procès d'une religion ou d'un culte ou d'une croyance. Je respecte absolument les libertés religieuses. Ce que je dis, c'est qu'il y a un discours qui s'est établi dans les milieux populaires, à la fois urbains et ruraux, qui est dans une guerre directe, déclarée, contre la culture populaire haïtienne, le vaudou en particulier, et qui, en plus, amène à un processus de désocialisation de l'individu qui devient membre de cette secte, parce qu'il n'est plus citoyen haïtien, il n'est plus paysan haïtien, il n'est plus ouvrier haïtien, il est, comme ils disent, le frère des autres membres du culte. Et sa relation avec tout ce qui ne fait pas partie de ce culte est une relation de haine, de mépris, de désolidarisation. Lors du tremblement de terre, on a vu des gens en train de hurler sous les ruines et des gens se réclamant de ces sectes passant dans les ruines en disant « C'est Dieu qui l'a voulu parce que vous n'êtes pas avec nous. » Donc c'est en ce sens que je dis que c'est vraiment une catastrophe symbolique. C'est le pire usage fait du christianisme dans les temps modernes.
Un message pour les gens. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui vous écoutent dans la région de Toronto, ici. Et entre autres, nous avons la maison haïtienne du Grand Toronto. Ce sera au rendez-vous avant la fin de l'émission. En créole ou en français, au début de cette année 2018, quel message aimeriez-vous passer aux Haïtiens de la région de Toronto, du Canada, des auditeurs francophones aussi qui nous écoutent, parce qu'il y a une vraie solidarité qu'on veut créer à travers cette émission. On était là lors du tremblement de terre de 2010 grâce à RFI. Comme vous savez, nous sommes partenaires de la Radio Mondiale. Et on a invité les gens, pas seulement les Haïtiens, mais tous les francophones de la région, d'intervenir pendant plusieurs semaines pour justement prendre conscience de la réalité. Laisser parler des Haïtiens de leurs problèmes et avoir leur perspective, au lieu d'avoir toujours une perspective de Canadiens d'origine pure laine, comme on nous appelle ici. Je pense qu'il faut, et on se rejoint là, je pense, il faut laisser les Haïtiens parler de leurs problèmes et nous donner peut-être des pistes pour reconstruire, rebâtir, parce qu'il y a toujours l'espoir, n'est-ce pas? D'ailleurs, vous ne voulez pas quitter Haïti, hein, malgré les difficultés. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir pourquoi vous demeurez toujours en Haïti, malgré cette situation difficile.
Et malgré tous les départs dont on a parlé, la plupart des Haïtiens vivent quand même en Haïti. Je ne vais pas entrer dans les détails très personnels, mais il me semble que... il y a des gens quand même à qui ce pays a donné des choses.
Oui.
Moi, je considère, sans être né dans une famille riche, qu'Haïti m'a beaucoup donné. Et je pense qu'il y a un travail de restitution à entreprendre de la part de ceux qui ont reçu quelque chose. Et j'essaie modestement, à mon niveau, de participer à ce travail de restitution. Maintenant, tout conseil est un mauvais conseil, mais je dirais simplement que les gens qui pratiquent le pire le savent. Ceux qui veulent pratiquer le meilleur devraient aussi le savoir. Ceux qui gagnent sont ceux qui continuent. Et il faut absolument continuer à être l'écho des discours revendicatifs du peuple haïtien, des besoins exprimés par le peuple haïtien. Et c'est par là seulement que nous pouvons contribuer à la chose la plus importante, la transformation des rapports sociaux en Haïti. Les problèmes d'Haïti ne sont pas des catastrophes ponctuelles, ce sont des problèmes liés aux structures même de l'État haïtien. C'est une révolution extrêmement moderne qui a produit une sorte de société d'ancien régime. Et c'est la transformation de cette société qui est la grande nécessité historique pour Haïti. C'est à cela qu'il faut essayer de contribuer.
Mmh. Je rappelle, Jean, que vous vous battez également au service de la démocratie de votre pays, de la résistance face à une dictature oppressante, comme en témoigne le roman bicentenaire paru en 2004. Vous avez publié plusieurs romans, d'ailleurs, poésie, non-fiction. Il y a eu même adaptation de votre œuvre au cinéma. Et vous avez aussi, je pense, remporté un prix en 2010, Chevalier des Arts et des Lettres. Donc, vous connaissez un peu Toronto, Montréal, oui, sans doute vous êtes allé plusieurs fois, mais Toronto...
Montréal, oui, Toronto, je suis venu une fois au Festival littéraire à Toronto.
Oui, oui. Alors,
il y a très longtemps.
Oui, écoutez, je pense que ça vraiment nous a aidé aujourd'hui à cerner un peu le point. Comme vous le dites si bien, il n'y a pas que des catastrophes, mais il y a aussi des gens de bonne volonté qui ont toujours espoir, hein, qui se battent encore pour que Haïti trouve un peu de démocratie. Et que la redistribution des richesses soit attribuée à tout le monde, n'est-ce pas?
Oui. Je crois que c'est le problème majeur d'Haïti.
Oui. Monsieur Lionel Trouillot, un grand merci et je vous souhaite de tout cœur, de la part de tous les membres de l'équipe de la radio CUTFM et l'Université de Toronto, tous les professeurs de l'Université du département d'études françaises de Toronto, vous souhaite une excellente année, bon courage et gardons contact. Peut-être à l'avenir, vous pourriez nous éclairer un peu de ce qui se passe dans votre pays. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui.
Merci à vous.
Bon, au revoir.
Je vous dis à nous toutes ces Haïtiens liés. Haïti pas jamais mourir. Nous pas le camper, nous pas le bailler force. Haïti!
Ensemble, je sens pour Haïti.
Mais faut-il qu'on attende que la terre tremble, que la terre s'ouvre, pour que nos cœurs s'ouvrent aussi de Haïti.
Au nom de Dieu, le miséricordieux, car la terre est odieuse par ici, je n'ai Dieu que pour Haïti.
Oh Haïti, qui ça ne peine à payer, même si nous loin souffrance n'en partager.
Comment, au milieu de cette désolation, rester insensible à ses regards d'enfant.
En pile mon gadi, Haïti maudit, c'est pas vrai. Haïti, se renaîtra de descendre.
Mes paroles ne valent rien devant ceux présents sur le terrain. Haïti, c'est qui en moi de vous tous on a besoin.
Ensemble, agissons pour Haïti.
Faut-il être dans le même pays pour se mobiliser? Faut-il être d'une même couleur pour se sentir
bien
concerné?
Bien chanter l'unité pour Haïti où le temps s'est arrêté.
Même irrité, on milite de notre amour Haïti a hérité.
C'est pour toi Haïti chérie que je chante aujourd'hui.
Pour le peuple haïtien, oh oh oh. Une action, un soutien, un espoir pour que jamais on ne vous abandonne.
S'il est dur de croire qu'il y a le pouvoir sur
autant de vies. Chambéret, Pamoli.
Ils ont besoin de nous, de vous, foncez ou pâle.
Ouh, vessieu, ouh, vessieu, bayolo, bayolo, bayolo.
Nous toutes solidaires pour Haïti.
Agissons ensemble, Haïti compte sur nous.
C'est en errant, en donné, c'est pour l'aide Haïti.
Toujours ensemble, ensemble.
The sound of your city,
CIUT 89.5, Toronto. Listen to us on the go with TuneIn Radio's free app, or go to the live stream at www.ciut.fm. Right here, right now, every day. CIUT 89.5 FM.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Toute l'équipe de CUT FM vous souhaite une heureuse année sur
RFI. Toute la diversité du monde.
Et oui, mesdames, messieurs, dans un instant, nous allons descendre à Toronto pour recevoir monsieur Fougère-Adolphe, qui est président de la Maison d'Haïti du Grand Toronto. Mais j'aimerais vous remercier, monsieur Ballant, de cet entretien, parce que c'est vous qui avez facilité le rendez-vous téléphonique aujourd'hui avec Port-au-Prince et notre invité spécial, monsieur Lionel Trougeau. Merci beaucoup, beaucoup pour cette collaboration. Et oui, on a reçu aussi beaucoup de réactions de la part des auditeurs de Montréal, de Paris. Et je trouve qu'il y a quand même une vraie solidarité de la part de beaucoup d'auditeurs francophones qui veulent aider Haïti, mais ils veulent que l'argent ou encore les dons aillent dans de bonnes mains. Et donc, si on peut faciliter ses relations avec Haïti et surtout les victimes du tremblement de terre, alors on le fera avec plaisir tout au long de l'année. Je vous rappelle, aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale, Haïti 8 ans après, ce 12 janvier 2010, Haïti était secoué par le plus violent séisme dans le pays et on s'en souvient. Créer un lieu de rencontre pour tous les individus d'origine haïtienne du Grand Toronto et développer des services et programmes qui répondent aux besoins des individus d'origine haïtienne du Grand Toronto, c'en est la mission de la Maison d'Haïti du Grand Toronto. Et justement, la Maison d'Haïti du Grand Toronto vous convie à son Assemblée Générale samedi 13 janvier 2018 au North York Civic Center à 14h. Dans un instant, nous allons parler avec Fougère-Adolphe, président de la Maison d'Haïti du Grand Toronto. Eh oui, bonjour monsieur Fougère-Adolphe et bonne et heureuse année à vous et toute votre équipe.
Bonjour Eric, bonjour à toutes les fidèles auditeurs et auditrices de l'émission proposée.
Oui.
L'émission de toute la communauté ethnoculturelle du Grand Toronto.
Oui, vous avez entendu l'entretien avec M. Trouillot aujourd'hui?
Oui, j'ai bien écouté M. Trouillot. Je pense qu'il a beaucoup parlé de Haïti et surtout des problèmes avec les institutions internationales qui interviennent en Haïti. Là.
Mmh. C'est terrible, hein? On sent que c'est une course sans issue, pas de fin, on est toujours dans le tunnel, dans un trou noir. Est-ce que vous avez l'espoir en 2018 pour ce pays?
Oui, j'ai plein d'espoir parce que c'est vrai, il y a eu des changements politiques, mais au niveau social, ça tarde à venir. Mais je pense avec la volonté affichée par le nouveau gouvernement et de s'investir dans l'agriculture, je pense que et quelque chose va changer, je pense. Mais moyennant, il faut la volonté, la participation des Haïtiens. D'abord, que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur du pays.
Et puis, il y a eu toute cette crise là des réfugiés, surtout des États-Unis, qui doivent trouver refuge quelque part avant la fin de ce mois. Est-ce que vous avez été sollicité par des réfugiés ou vous travaillez en convenance avec les gouvernements, que ce soit provincial ou fédéral, pour trouver une issue
aux... Oui, au niveau de la maison et d'autres organismes de la communauté, on avait eu des rencontres avec la ville de Toronto, le gouvernement provincial et fédéral. On est en train de discuter, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu des réponses positives par rapport à l'arrivée des gens. Si il arrive, bien entendu, mais c'est la probabilité. Mais on travaille ensemble, on essaie de voir comment on va résoudre ce problème.
Mais
on ne sait qu'une problème. On ne pourrait pas la résoudre réellement, mais en tant qu'organiste, en tant qu'haïtien, on devrait apporter notre contribution pour voir comment on pourrait améliorer la situation de nos compatriotes.
Oui. Vous savez que, selon certaines sources, il y a une dizaine de réfugiés d'origine haïtienne qui traversent la frontière américaine vers l'Ontario chaque jour. Et ils entrent de manière légale depuis le poste frontalier de Fort Erie avant d'aller rejoindre un parent à Toronto. Et est-ce que vous avez été sollicité par des réfugiés directement?
Non. Et présentement, non, on n'est pas sollicité par les réfugiés. Mais nous, en tant qu'organisme, on essaie d'avoir les informations et de voir comment on pourrait les accompagner lorsqu'ils arrivent sur le terrain. Mais on n'est pas sollicité d'avance pour savoir qu'est-ce qui se passe. On n'a pas de sollicitation là-dessus.
Mais
on sait que la situation existe.
Vous savez, est-ce qu'on est un poids politique, que ce soit en tant que francophone, immigrant, réfugié, demandeur d'asile, en Ontario ou au Canada? Parce que je trouve que, comme si des fois c'est de la sourde oreille de la part... Regarde ce qui est en train de se passer en RDC, République démocratique du Congo. C'est la sourde oreille de la part du gouvernement du Canada. Comment expliquer que notre gouvernement, nos gouvernants, n'arrivent pas à prendre position pour défendre les droits humains? Est-ce que vous avez des indices ou des solutions pour aider nos gouvernements?
Bon, c'est la raison pour laquelle, au niveau de la maison, vous allez voir cette année, nous allons pas commémorer le 12 janvier. Alors on va profiter de l'Assemblée générale de la maison pour réfléchir et voir comment on pourrait aller vers le gouvernement pour que le gouvernement puisse nous écouter. Parce qu'on constate que le gouvernement canadien ne nous écoute pas, malgré notre représentation au Canada. Je ne peux pas dire à Toronto, mais à Montréal, on est plus de 300 000. À Toronto, on est plus de 30 à 40 000. Ça veut dire qu'on est une communauté, on essaie d'organiser la communauté. Malgré nos démarches, nos interventions auprès du gouvernement canadien, on sent la sourde oreille. Maintenant, nous pensons qu'au niveau de la maison, on doit utiliser une nouvelle stratégie, aller leur rencontrer comme on avait fait lors des problèmes de nos citoyens qui voulaient rétablir et pour qu'on puisse permettre aux Haïtiens de faire l'humanitaire. Je pense maintenant que nous sommes en train de préparer notre cahier de décharge. Nous décidons d'aller vers le gouvernement, que ce soit le premier ministre, les ministres et autres, poser la problématique pour leur dire que Haïti, c'est un pays comme les autres pays. Nous avons une communauté haïtienne qui contribue au développement économique du Canada. Par contre, il faut que le gouvernement canadien nous accompagne dans nos actions envers ce pays.
Alors, parlez-nous un petit peu justement du processus de cet événement. Hein. C'est l'Assemblée générale de la Maison d'Haïti du Grand Toronto et c'est prévu pour le 13 janvier à partir de 14h au North York Civic Center. Et pour les gens qui nous écoutent, les Haïtiens surtout, qui aimeraient se présenter au conseil d'administration, est-ce qu'il y a un processus en place?
Oui, c'est sûr, il y a un processus. On avait envoyé une invitation aux gens pour leur dire, tous les gens qui veulent, qui s'intéressent à venir servir la communauté, il y a place. Et maintenant, au moment où je parle, le processus est clos. La porte est ouverte, vous avez la possibilité de participer, vous pouvez devenir membre. Mais et en tant que membre du conseil, le délai est déjà passé. Mais par contre, c'est votre organisme, vous avez le droit de venir participer, contribuer, apporter vos idées, parce que c'est la maison mère, c'est un endroit de créer une proximité avec la communauté, de mettre ensemble nos idées pour faire avancer les causes de la communauté. Nous pensons que, quelle que soit la personne, que vous êtes haïtien ou non, vous êtes la bienvenue, parce que c'est un organisme au service de la communauté, pas seulement de la communauté haïtienne, mais de la communauté ethnoculturelle francophone.
Depuis quand la Maison d'Haïti du Grand Toronto existe? Et parlez-moi un petit peu une ou deux grandes réalisations de votre organisme.
Bon, et l'organisme existe depuis 2010. On a eu, avant, il y avait Gabriel Osson qui était le président. Et moi, j'étais le coordonnateur. Par la suite, je suis devenu le président. Mais depuis lors, on a pu créer le pont entre les différents organismes de la communauté, entre les différentes communautés, entre la communauté haïtienne et d'autres communautés. On pense à ce niveau-là, on a fait un bon travail. Le plus gros dossier qu'on a mené, c'est le dossier des réfugiés. Mmh. On a lutté, on a dû rencontrer le ministre de l'Immigration, le premier ministre. On a eu des débats à la radio avec eux et, à la vérité, ça a apporté du fruit. Par rapport à la proposition que nous avons faite, le gouvernement canadien l'a accepté à la totalité et a seulement ajouté la possibilité de prêter de l'argent aux gens qui veulent faire une demande humanitaire. On pense, pour nous, c'est un des plus grands dossiers que nous avons menés et qui est arrivé à terme. Mais malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas compris le sens du travail accompli. Ils n'ont pas profité de l'opportunité que le gouvernement canadien avait offert aux gens de faire une demande humanitaire. Je pense qu'il y a 800 ou 900 personnes qui n'ont pas eu la chance de faire la demande.
C'est vrai?
Mais c'est pas à la faute du gouvernement. Mmh. Parce qu'on a fait la promotion, on a dû remplir les dossiers gratuits, on n'a même pas pris un sou entre les mains des gens, on est parti à Ottawa, le gouvernement est venu nous rencontrer sur place à Toronto, on a fait toutes les démarches et sincèrement, Eric, on a fait un bon travail et le gouvernement canadien, pour une fois, a dû répondre à cette revendication. Mais les Haïtiens qui n'ont pas eu la chance de faire leur demande humanitaire, c'est leur faute, c'est pas la faute du gouvernement et ni la faute de l'organisme. Mmh.
C'est ça que j'entends souvent sur les nouveaux immigrants qui arrivent ici ou les réfugiés, les demandeurs d'asile. Il y a comme si un genre de manque de communication entre les organismes qui sont là pour les soutenir, les aider, les organismes francophones là. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ces gens arrivent en Ontario, ils pensent que tout se passe en anglais, donc ils préfèrent aller des fois, bien souvent, dans les services anglophones, au lieu de trouver des réponses dans la communauté et rejoindre les organismes qui desservent les francophones. Est-ce qu'il y a une solution à ça? Parce que je sais qu'à l'arrêt au gare de Pearson, on parle toujours de ce manque de communication en français pour les gens qui y arrivent, parce que quand ils arrivent, ils pensent que c'est l'Ontario et puis on ne parle pas anglais, alors ils s'adressent en anglais. Parce qu'ils pensent qu'on ne parle pas en français. Alors, je sais qu'il y a un organisme dans la région de Peel qui est responsable et qui reçoit des fonds, d'ailleurs, du gouvernement de l'Ontario pour desservir, ou le gouvernement canadien, pour desservir les francophones qui arrivent à Pearson. Mais c'est encore clopi-clopant, hein? C'est pas sûr.
Parce que le problème, c'est quoi? Lors de la dernière rencontre que j'avais eue avec la commission de l'immigration francophone, on avait posé le problème pour qu'il y ait les affiches soient en anglais, pour que les affiches soient en français aussi. Et que lorsque la personne arrive à l'aéroport, qu'on lui donne un paquet avec toutes les informations, la liste des organismes qui pourraient les aider et autres, on avait même demandé d'avoir un guichet spécial à l'aéroport. Malheureusement, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent avec ces idées. C'était accepté. Mmh. On allait dire qu'on allait mettre des informations disponibles à l'aéroport. Et c'est la raison pour laquelle, dans les rencontres qu'on avait eu avec le gouvernement, la ville et autres, nous voulons avoir nos propres centres pour pouvoir recevoir les gens. On était en train de discuter avec le gouvernement. On sent qu'au niveau du gouvernement, au lieu de nous confier nos immigrants, nous connaissons leurs problèmes, nous pouvons leur accompagner, aussi mieux pour eux de dire ok, on les reçoit, on les envoie à d'autres personnes qui ne savent même pas comment les traiter. Et je pense que sur ce problème-là, on est en train de travailler au niveau de la maison et d'autres organismes haïtiens de la communauté pour voir comment on pourrait résoudre ce problème. Parce que je pense que c'est un problème, c'est comme s'il y a une certaine notoriété à des organisations fortes, anglophones déjà établies, et que vous allez chercher les gens, vous voulez accompagner les gens, mais envoyez-les aux anglophones, et puis c'est fini. Et lorsqu'il arrive aux anglophones, c'est pas le travail qu'il attendait. Alors nous pensons qu'au niveau de la maison d'Haïti, on doit continuer, parce que mener une bataille, c'est pas aussi une chose facile dans un pays, dans un terre étranger. Là, nous pensons qu'au niveau de la maison d'Haïti, nous devons travailler beaucoup, beaucoup avec toute organisation partenaire, soit les organisations africaines, caribéennes, autres, pour voir comment on pourra mettre nos forces ensemble pour pouvoir construire une force réelle. À ce moment-là, je pense que nos compatriotes qui arrivent vont avoir un meilleur traitement.
Je ne sais pas si ma mémoire est bonne, mais je ne vois pas beaucoup d'Haïtiens hein, ou des gens de votre organisme qui siègent dans des comités consultatifs, aviseurs du gouvernement au niveau de l'immigration et tout ça, en tout cas. Mais je sais que la communauté haïtienne, il y en a, et j'en connais depuis 35 ans, 40 ans que je suis ici, beaucoup, beaucoup de professionnels, des artistes qui contribuent à l'évolution culturelle, artistique, au niveau de l'éducation à l'Université de Toronto, mais qui ne sont pas nécessairement très connus, et j'espère que cette émission donne la voix à ces sans-voix. Je félicite aussi tout le travail que vous faites, mais aussi de Janine Maillard, je pense, qui est aussi membre de votre équipe, qui a fait un travail extraordinaire pour faire connaître la culture créole et le zouk et le compas, qui est un succès monstre hein, à chaque été ici en Ontario, et qui nous aide à découvrir les artistes et aussi la culture dans sa profondeur, culture haïtienne. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à faire au niveau des médias, par exemple. Vous êtes complètement absent, malheureusement, hein, dans la région de Toronto. On vous entend très rarement. Est-ce que vous avez des idées, des résolutions, des recommandations pour les gens des médias, du monde littéraire, éducatif ou culturel?
Bon, ce que je peux dire, que la maison est ouverte. Nous sommes prêts à les rencontrer, à discuter avec eux. Et lorsqu'ils ont besoin d'une interview, ils ont besoin des informations, ce serait mieux de venir vers la Maison d'Haïti et d'autres organismes de la communauté haïtienne, la Fondation Civile des Noirs, quel que soit l'organisme haïtien, ils vont avoir les informations. Et venez participer dans nos activités, parce que la maison, c'est votre maison. Et en participant dans la maison, vous allez apporter vos idées, et à ce moment-là, on pourrait nous renforcer et on deviendra un jour une force réelle sur le terrain et que même le gouvernement aura besoin de nous.
Je rappelle aux gens que vos coordonnées sont maisondhaiti.toronto@gmail.com pour les gens qui aimeraient communiquer avec vous. Vous êtes aussi sur Facebook, sur Twitter. Monsieur Fougère Adolphe, dernier mot peut-être en créole. Ah, pourquoi pas, pour souhaiter la bonne année, aussi peut-être donner votre mot de la fin à nos auditeurs.
Nap dit tout haïtien que année 2018, ça, on colle les épaules, on colle les têtes ensemble pour nous renforcer communauté, non seulement pour nous faire communauté à marcher bon ici, et pour nous commencer à penser à l'investir la caille pour nous aider à résoudre le problème misère qui est dans le pays. Ça.
Écoutez, je vous souhaite de tout cœur, hein, et nous sommes amis depuis très longtemps, Fougère Adolphe, président de la Maison d'Haïti et du Grand Toronto, meilleur succès. Bon courage et n'hésitez pas à nous revenir pendant toute l'année 2018, par la grâce de Dieu, si on est là. Alors, merci pour tout le travail que vous faites et bien le bonjour à toute votre équipe. Je rappelle aux gens encore une fois que la Maison d'Haïti du Grand Toronto vous convie à son Assemblée Générale le samedi 13 janvier 2018 au North York Civic Center à partir de 14h. Et vous pouvez aussi écrire à la Maison d'Haïti, maisondhaiti.toronto@gmail.com. Pour avoir de plus amples renseignements. Bonne année, monsieur Adolphe.
Bonne année, monsieur Eric.
Au revoir. Et
bon travail.
Merci.
et tout ça me va.
Real Song Production présente la compilation la plus glamour de l'année. Viens Zouker volume 5. Mixé par DJ Wilson. 19 tubes des années 80 90 enchaînés plus 3 inédits. Darius Denon. Les Two Ways. Et le tube de ses vacances, Jean-Marie Ragal. La compilation Viens Zouker volume 5 by DJ Wilson. Déjà dans les bacs et sur toutes les plateformes de téléchargement légal.
Nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous ceux et celles qui nous ont envoyé des messages. Et bonjour, monsieur.
Bonjour, Eric.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Une émission un peu palpitante.
Ah oui. Vie. Ah oui.
Monsieur Trouillot.
Ah oui, ça nous a un peu aidé d'avoir ce point de vue.
Je pense qu'il est très important d'avoir des gens sur place et des gens engagés qui nous donnent leur perspective au lieu d'avoir
qui vivent la réalité surtout.
Exactement. Au lieu d'avoir toujours les perspectives de nos journalistes d'ici qui ne connaissent pas vraiment Haïti. Oui. Et là, nous écoutons, avant de parler de ce que vous entendez en ce moment, je laisse languir les gens. Quelle est la musique d'un film qui est numéro un box office ces temps-ci? On écoute. En attendant la réponse, que pensez-vous de la jeune chanteuse caribéenne Lissy Naïs Jean? Qui a présenté son premier album.
Formidable. Formidable. Et sa personnalité aussi. On voit du vrai chez elle. Et aussi l'idée de voir comment elle s'écarte de se reconnaître à partir d'un pays, d'une terre ou seulement des ancêtres, être ouverte à tout le monde et au monde entier. Et je pense qu'on a besoin de plus d'artistes comme ça aujourd'hui.
Voilà, madame, monsieur, avez-vous vu le dernier Jedi de Star Wars? Eh bien, c'est un film époustouflant à plus d'un titre. D'abord, spectacle visuel. C'est aussi manier avec talent une histoire épatante. Moi, j'aime pas tellement Star Wars, mais là, il faut se déplacer. Il faut vraiment, parce que je vous le conseille, si certains trouveront à redire à raison sur quelques choix étranges, force est de constater que le bébé de Rian Johnson ne déçoit pas. Un huitième opus à prendre comme une immense lettre d'amour aux fans et aux cinéphiles. Je ne peux que féliciter les réalisateurs des deux derniers opus d'avoir effectué d'aussi beaux résultats. Par contre, soyez patients, il vous faudra 2h30 assis dans votre fauteuil et je vous conseille fortement des sièges VIP dans les salles Cinéplex et leur menu resto et carte de vin. Pourquoi pas? Et puis, si cela vous intéresse, on va vous envoyer au Salon de la Radio en France, qui se déroule du 25 au 27 janvier prochain, madame, monsieur, édition de l'Octet et des éditions Sarles, dans le cadre du Salon de la Radio et de l'Audio Digital. L'objectif est de valoriser et de stimuler la profession tant sur le volet des stations et des expériences audio-digitales que de la création publicitaire radiophonique francophone diffusée sur les radios locales, régionales, nationales et internationales, alors web radio, plateformes de streaming. Alors, depuis que vous êtes avec nous, vous aimez, comment voyez-vous le monde de la radio?
Ah, je l'adore bien, ouais, je l'aime bien. Ouais, comme et ça, c'est, ça donne le pouvoir un peu de passer les idées. Et je pense que c'est important
non,
d'avoir
c'est
les bonnes
de passer
idées.
Les idées. Est-ce que la radio pourrait être une arme pour justement contrer les fausses rumeurs, le fake news?
Ah oui, c'est important parce que la radio aussi, c'est elle qui donne les fake news. Donc cette force pour contrecarrer, cette force négative, c'est important de l'avoir.
Alors, si vous aimez, madame, monsieur, vous aimeriez célébrer la fête des rois, on vous invite aujourd'hui à une visite gastronomique en ce dimanche 7 janvier de 14h à 16h avec Chantal Véchambre qui est historienne et chef auteur du livre Le goût français du Canada. Et c'est une histoire, toute une histoire gastronomique. C'est organisé tout ça par la Société d'histoire de Toronto. On vous invite à aller rejoindre les amis de la Société d'histoire au 160 rue Queen West dès 14h. C'est dans le coin de Nord-Ouest et rue University et Queen au centre-ville de Toronto. Allez sur le site www.ttc.ca pour avoir les indications et l'adresse exacte ou encore, vous pouvez aller sur le site de la Société d'histoire du Grand Toronto. Le Club canadien de Toronto a le plaisir de vous convier à son premier déjeuner d'affaires du Nouvel An. La rencontre aura lieu le 16 janvier de 11h55 à 13h30 à l'hôtel Fairmont Royal York. C'est situé à 100 rue Front West, salle impériale, niveau rez-de-chaussée. Et le conférencier principal sera M. Jean-Marc Fournier, ministre responsable des relations canadiennes et de la francophonie canadienne et leader parlementaire du gouvernement du Québec. Beaucoup de choses qui se passent ici dans la région de Toronto. Et puis, bien sûr, ne pas rater, c'est l'Assemblée générale de la maison d'Haïti, vous connaissez?
Oui, un peu. Oui,
oui, oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a des jeunes?
Personnellement, je ne sais pas, mais il y a des jeunes qui participent aux activités. Mm-hmm. Peut-être pas à l'organisation, mais aux activités, oui.
Et votre réflexion sur l'émission d'aujourd'hui, la première émission?
Ça m'a fait un peu chaud d'écouter les témoignages de ses compatriotes haïtiens. C'était important de souligner le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Et c'était pas une belle façon de commencer l'année, mais c'était quand même important de le souligner.
Oui. Eve Irvine et Alexandra Renard de France 24, merci. Radio France Internationale, bien sûr, qui est toujours là, qui nous appuie. DJ Devera, merci d'avoir été là. Sloan Ballon, le journal Express de Toronto, Monsieur Lionel Trouillot, Monsieur Fougère Adolphe, toute l'équipe vous souhaite une excellente année. À dimanche prochain, mon cher.
Bonne année à tous.
Au revoir.
À dimanche.
J'ai braqué j'ai tout cas semblé goûter mes loups. Même fait mes levines font la cour. Bien ça qui campait au jaloux. Où met tout le monde au garde à vous. Personne va faire demi-tour. Chaque fois ouvert bouche pour parler. Aswe a la se ou ki ren, ou merite un gros coup ta men. Ou mette l'antio dans la peine.